Vous êtes sur RTL.
Les auditeurs ont la parole sur RTL.
Avec Pascal Pro.
On va parler football et que faut-il faire? Voilà, c'est les auditeurs qui vont nous donner évidemment les solutions. Bonjour Bruno, qu'est-ce qu'il faut faire dans le football, Pascal, pour que ça ne se reproduise plus?
Là, moi j'ai envie de dire, terminer les mesurettes, faut passer aux vraies sanctions.
Ben oui, mais lesquelles?
Les vraies sanctions.
Vous allez nous les donner dans une seconde. C'est un teasing. Suspense. Agnès Bonfillon, le rappel des titres.
Le mari de Delphine Jubilar reste en prison. Ses avocats avaient une nouvelle fois demandé sa remise en liberté la semaine dernière. Cédric Jubilar, je vous le rappelle, est mis en examen pour le meurtre de sa femme. Le corps de celle-ci n'a jamais été retrouvé, mais les juges avancent un faisceau d'indices graves et concordants. Les violences conjugales en hausse de 10% l'année dernière, durant notamment le premier confinement. En tout, ce sont 160 000 personnes qui ont été victimes de coups, d'agressions sexuelles ou de viols par leurs conjoints. Vous allez parler football dans un instant, oui. Pascal, avec les auditeurs. Sachez que les Marseillais se sont entraînés ce matin, mais sans Dimitri Payet. Je vous le rappelle, hier, Dimitri Payet a été touché à la tête à Lyon par une bouteille d'eau. On passe à la météo. Le temps, Louis Baudin, nuages au sud et éclaircies au nord. Pour une fois, ça change.
Effectivement, normalement au nord de la Loire cet après-midi, mais je regarde les images satellites, ça semble se confirmer. On aura un temps plutôt ensoleillé, donc de la Bretagne au nord Pas-de-Calais, du Val-de-Loire jusqu'à l'Île-de-France. Dans le nord-est également, on aura quelques belles éclaircies. Et puis plus au sud, sud de la Loire notamment, dans l'est, eh bien là, ça devrait rester nuageux. Près de la Méditerranée, on aura également quelques belles éclaircies, notamment autour du golfe du Lion, avec l'aide du Mistral de la Tramontane. Ça n'empêchera pas quelques averses en Corse notamment, puis les températures, eh bien ça baisse, hein, 5 à 7 degrés seulement dans le nord-est cet après-midi, 7 à 10 degrés dans toutes les autres régions. Il n'y a plus que près de la Méditerranée maintenant qu'on dépassera ces 10 degrés.
Et pour la suite, Louis, le froid s'installe.
Voilà, exactement, faut s'y faire, hein, froid avec demain matin des gelées fréquentes. Pourquoi? Parce que le ciel sera plus souvent dégagé durant la nuit, et demain d'ailleurs le soleil devrait s'imposer quasiment partout, sauf tout près des Pyrénées, sur les Alpes, où on aura encore quelques averses, voire même de l'orage du côté du Roussillon avec un peu de neige en montagne. Après des gelées matinales fréquentes, les températures ne dépasseront pas les 7 à 9 degrés l'après-midi, 4 à 6 degrés seulement dans le nord-est. Encore une fois, il y a que près de la Méditerranée où on dépassera les 10 degrés. Et ce temps froid devrait nous accompagner jusqu'à la fin de la semaine où il y aura plus d'humidité. Donc peut-être des épisodes de neige à très basse altitude, voire en pleine peut-être dans les régions de l'est ce week-end.
Et ça vous ravit.
Fait du feu dans la cheminée.
Ah oui, là,
je reviens chez nous. S'il fait du soleil à Paris, il en fait partout. Merci cher Louis, vraiment merci. Merci Agnès. Merci à Ludovic qui était aux manettes derrière la vitre. Bonjour à Damien Béchiot. D'ailleurs, il est 13h04.
Bonjour,
merci
Pascal.
À Philippe Sanfourche qui va nous accompagner.
Monsieur, c'est un plaisir.
Un des monsieur football de RTL. Et vous allez pouvoir échanger avec les auditeurs.
Les auditeurs ont la parole.
Pascal Pro sur RTL.
Qu'est-ce qu'il faut faire, Bruno? Ça m'intéresse. Vous êtes chauffeur de taxi. Vous habitez Nancy. Vous allez peut-être au stade Marcel Picot.
Oui, j'y vais régulièrement. J'ai d'ailleurs.
Qui est tranquille.
Qui est plutôt tranquille. J'ai des supporters des fois dans la voiture qui sont un peu excités, donc je leur explique un peu ce que j'en pense de leur comportement. Mais
bon, qu'est-ce qu'il faut faire là présentement selon vous?
Alors déjà, il faut arrêter de que les supporters tirent sur l'élastique, parce qu'un jour il va péter, puis on va finir par avoir un drame dans le stade. Et donc il faut arrêter avec les mesurettes, parce que j'estime aujourd'hui que le nombre de fois où les clubs ont été condamnés à des retraits de points avec sursis, c'est jamais appliqué, ou ce sont des tribunes qui ont été fermées, c'est-à-dire qu'en gros on sanctionne 1000 ou 2000 ou 5000 personnes selon le nombre de personnes qui vont dans la tribune pour 2-3 abrutis qui font n'importe quoi et qui n'ont rien à faire dans un stade. Donc il faut, comme ça a été fait pour hier à Lyon, se débrouiller pour que les fautifs soient attrapés, punis, comme le supporter de Nice-Marseille, je crois, qui a pris 4 ou 5 ans d'interdiction de stade. Donc il faut de l'interdiction de stade une fois, et la deuxième fois, c'est interdiction de stade à vie. Ça, c'est concernant les supporters. Après, concernant les clubs, parce que les clubs, en fait, eux, ils se reposent, j'ai l'impression, sur la Ligue. Ils se disent, la Ligue va sanctionner, alors que les clubs doivent d'abord faire le ménage dans leurs supporters. Est-ce qu'il faut dissoudre les associations d'ultra? J'en sais rien. Moi, je suis plutôt contre les sanctions globales qui mettent tout le monde dans le même sac, parce que si ça se trouve, dans les ultras, il y en a quelques-uns qui sont certainement très bien. Donc je pense qu'il faut aller beaucoup plus en détail, essayer de choper les quelques abrutis qui font n'importe quoi dans les stades et faire en sorte qu'ils n'y reviennent pas. Mais que les clubs aussi fassent ce qu'ils font et ne font pas semblant de pas s'intéresser, enfin pas semblant de s'intéresser au problème, et puis finalement se dédouaner de leur responsabilité. Moi, ce qu'a dit hier Jean-Michel Aulas, que le match aurait pu reprendre, bien sûr que non, le match ne doit absolument pas reprendre quand il y a ce genre d'incident.
Mais finalement, en vous écoutant, vous n'êtes pas si sévère que ça d'ailleurs, Bruno. Philippe Sansfourche, bon, deux, trois choses. D'abord, le contrôle de la sécurité. On sait bien que les stadiers ne sont pas des policiers ou des gendarmes. Donc la palpation, elle est légère et tu peux faire rentrer ce que tu veux dans un stade. C'est ça la vérité. Vous le savez, par exemple, vous étiez au Parc des Princes samedi soir. Toute la tribune s'est enflammée parce que c'était les 30 ans de la tribune Borély. Je rappelle qu'il est interdit, Auteuil, il est interdit de faire entrer des fumigènes. Et il y avait je ne sais combien de fumigènes dans le parc. Donc tout le monde sait que ces fumigènes sont entrés dans le parc.
Alors ça, effectivement, vous faites référence à ce qui est un peu une zone grise, parce qu'on s'aperçoit que le fumigène, lorsqu'il est utilisé de manière... extrêmement festive comme ça, plaît à beaucoup de monde dans le milieu du football, au point que même parfois on voit des bandes annonces de la Ligue, voire même du gouvernement après le confinement, qui mettent en image.
Je rappelle qu'il est interdit dans les stades.
Sur des spots publicitaires.
Je rappelle qu'il est interdit de faire entrer un fumigène. Bon, vous étiez au stade l'autre soir.
D'où le caractère.
Bon, tout ça pour dire que.
Ambivalent de la chose.
Tout ça pour dire que la palpation, ça marche pas. Alors après, t'as 3-4 solutions. Soit tu mets des filets de sécurité partout. Soit, effectivement, tu enlèves des points à une équipe. Tu mets une sorte de jurisprudence, match perdu 3-0 à chaque fois. Et puis, si tu veux encore augmenter les sanctions, bah tu dissous, pourquoi pas les associations.
Le là, effectivement, c'est beaucoup plus simple. Il y a la prévention, vous en parlez.
Mais la prévention, ça fait 25 ans, Philippe. Ça fait 25 ans, la prévention.
Sur le plan individuel et sur le plan collectif. Il est évident qu'il faut taper plus fort.
Mais oui, quoi ? Qu'est-ce qu'il faut faire ?
Bah, par exemple, l'excellent Nicolas Georgerot, avec qui je commande tous les matchs de l'équipe de France et du Paris Saint-Germain, faisait référence à un sport qu'il connaît bien, le basket et la NBA. Depuis le début de saison, il y a eu 2-3 incidents. Par exemple, un spectateur qui a jeté un pop-corn sur un joueur banni à vie. Voilà. C'est très simple, c'est-à-dire que c'est pas deux poids deux mesures, c'est pas peut-être une sanction avec sursis.
Le supporter
a été banni à vie pour avoir jeté un pop-corn sur un joueur.
13h09, restez avec nous, c'est l'émission des auditeurs. Mathieu va être là dans une seconde. À tout de suite.
Pascal Pro, les auditeurs ont la parole sur RTL.
Jusqu'à 14h30,
les auditeurs ont la parole sur RTL.
Avec Pascal Pro.
Je pense à nos auditeurs ou auditrices qui n'aiment pas du tout le football. Et qui entendent régulièrement les supporters à l'origine d'incidents. Mais que doivent-ils penser de ce sport ? Des gens qui n'ont jamais mis les pieds dans un stade, et il y en a forcément qui nous écoutent, qui disent mais qu'est-ce qui nous fatigue depuis 40 ans avec leurs supporters ? Parce que tout ça date des années 80. Avant, ça n'existait pas. Il n'y avait pas de problème dans les années 60-70 avec les supporters. C'est arrivé, les hooligans, fin des années 70 en Angleterre et à partir des années 80-90 en France. Laurent.
Bonjour Pascal, bonjour à tous. Minable, assez, ce sont les unes des quotidiens Le Progrès et La Provence ce matin après l'arrêt du match Lyon-Marseille hier soir au bout de 4 minutes de jeu. Alors qu'il s'apprêtait à tirer un corner, le joueur marseillais Dimitri Payet a été touché au visage par une bouteille d'eau. Faut-il taper du poing sur la table ? Sacha Houllier, député LREM de la Vienne et spécialiste des questions de hooliganisme, était l'invité de RTL Midi.
Une sanction sportive, disciplinaire, doit être exemplaire et elle doit être prise dès ce soir. Viser les associations de supporters, ce serait viser à côté de ce que sont les vraies responsabilités sur les organisateurs des compétitions ou sur les sanctions individuelles prises contre les individus qui sont des délinquants.
Faut-il arrêter automatiquement les matchs ? Que demandez-vous pour que ces événements ne se reproduisent plus ? Bruno a été le premier à réagir au standard.
Il faut de l'interdiction de stade une fois, et la deuxième fois c'est interdiction de stade à vie.
Faut-il sanctionner les clubs pour les débordements de leurs supporters ? Dissoudre des associations ? Avez-vous peur d'aller dans un stade de football avec vos enfants ? 32-10, 3-2-1-0.
Philippe Sansfourche est resté avec nous. Pour sanctionner le fautif, là, il n'y a pas de souci. On est tous d'accord. Sanction, pourquoi pas à vie d'un supporter de ne plus rentrer dans le stade. Là où c'est plus délicat, c'est quand on commence à parler du club. Que faut-il faire ? Et c'est ce qui nous intéresse. Mathieu, bonjour. Vous êtes Toulousain.
Bonjour Pascal. Bonjour Philippe aussi.
Et merci d'être avec nous. Quel est votre sentiment ?
Non, non, mais en fait, ça représente typiquement l'image de la France. Ce qui se passe aujourd'hui, en fait. Ben, c'est-à-dire qu'en fait, on a trop laissé faire sur tout. Là, ça touche le sport, mais en fait, ça peut toucher n'importe quel sujet, en fait, en France. On laisse tout faire. Et on ne connaît pas ce problème dans les championnats étrangers. Déjà, premièrement. Vous en avez parlé plusieurs fois. Moi, je suis vraiment, comment ça s'appelle, adepte de la Liga, donc le championnat espagnol. Mmh. Championnat espagnol, aucun supporter s'amuse à faire ça. J'ai vu des classicos Real Barcelone. Les mecs, ils s'aiment pas. Mais il n'y a jamais autant de haine. Il n'y a rien sur les joueurs. Il n'y a rien. C'est super strict. En France, on laisse tout faire. Je suis désolé, mais là, à un moment donné, il va falloir taper du bâton. Alors, je ne suis pas d'accord. J'étais le premier à dire il faut s'en prendre à Lyon. Mais Lyon, en fait, là, cette fois-ci, on ne peut pas leur mettre la faute. Parce que je crois qu'on est au sixième incident là, depuis le début de l'année. Donc, je ne vois pas pourquoi on taperait plus sur Lyon que sur les autres aussi.
Mais
donc,
parce que c'est une manière, après, c'est forcément injuste, mais c'est une manière de faire peser une menace sur le club qui reçoit, de dire s'il y a un incident dans votre stade, quoi qu'il arrive, c'est vous qui êtes fautif, match perdu 3-0. D'accord. Et à ce moment-là, peut-être que le dirigeant Aulas sera peut-être plus vigilant avec ses supporters et avant un match, avec des annonces, etc. Et ça. Je dis bien peut-être.
Non, ouais, mais Lyon, enfin, c'est pas qu'ils sont pour rien, mais sûr qu'ils sont pour quelque chose, Lyon. Mais on peut pas maintenant taper que sur Lyon. Je dis, il y a eu 6 incidents avant, donc les 6 autres aussi, il faudrait leur taper dessus.
Oui, mais non, alors qu'est-ce qu'on fait
À un moment donné, mais, le ministre déjà du sport, là, à l'Assemblée, devrait déjà s'excite un petit peu et qu'il parle vraiment sport. Et qu'à partir de cet incident, donc on laisse passer celui à la limite, on va taper sur celui qui a fait l'incident, il n'y a pas de problème, lui, il faut lui en mettre plein la tête. Mais à partir de cet incident, il faut s'en prendre au club. Comment on fait dans cette championnat, ils ne sont pas à ce point parce qu'ils se tiennent à carreau là-bas. Okay,
mais quel donné, type voilà, de sanction selon vous?
Moi, alors personnellement, alors, j'ai aucun pouvoir, mais si je peux en avoir, franchement, déjà, la première, c'est que sur un match comme hier, vous mettez déjà match gagné sur l'OM, parce qu'eux, ils ont pris 20. Laissez les potiers, c'est Lyon, et vous enlevez 3 points à Lyon. 6 points. Là, ça joue vraiment, ça a commencé à faire très mal. Vous mettez du huis clos, beaucoup de huis clos, parce que là, c'est l'argent qui rentre dans les recettes de Lyon, et là, peut-être qu'à un moment donné, les dirigeants de Lyon, comme Aulas, tout ça, ils vont peut-être commencer à s'exciter et dire, bon, à un moment donné, on va s'occuper des supporters parce qu'on perd de l'argent, on perd des points, il y a beaucoup trop de pertes.
Et ça devient c'est qu'à chaque fois, c'est des sanctions qu'on peut considérer comme injustes, mais en même temps, les joueurs sont en danger, quoi. La sécurité des joueurs sont en danger, Philippe. En fait, je trouve que c'est un sujet extrêmement compliqué à résoudre et de trouver la bonne sanction. Pour le moment, on a préféré donc des sanctions mineures, en fait, sauf à Paris. Avec le plan Le Prou, sauf à Paris, et ça a été efficace, évidemment.
Et pourquoi? Pourquoi est-ce qu'on avait pris des sanctions et des mesures aussi draconiennes? C'est parce qu'il y avait un processus de revente du club également, et qu'il fallait rhabiller la mariée, entre guillemets.
Il y avait un mort.
Alors, tout à fait, non mais il y avait un mort.
Parce que si, par exemple, un joueur meurt sur le terrain, le lendemain, on n'est évidemment pas du tout dans le même état. Et puissais-je que cela n'arrive évidemment jamais.
Donc c'est évident qu'il y avait, on était arrivé à des extrêmes qui nécessitaient de prendre des mesures fortes, mais encore une fois, c'était dans un contexte de revente du club. Donc c'est toujours par, in fine, au portefeuille qu'il faut taper. Si Jean-Michel Aulas, effectivement, il s'aperçoit qu'à chaque fois qu'il y a un souci dans son stade, il va avoir 3, 4, 5 points de pénalité. À l'arrivée, c'est une non-qualification en Ligue des Champions, c'est des millions d'euros en moins. Donc on en arrive toujours là. Parce que les propos de Jean-Michel Aulas hier, il y a une ambiguïté quand même. Oui, tout à fait, il a fait son travail avec la vidéosurveillance, ils ont retrouvé l'auteur des faits. Maintenant, la question, elle est aussi de se savoir pourquoi est-ce qu'il y a ces passages à l'acte. C'est-à-dire que c'est toujours sur des matchs. Vous ne verrez jamais un jet de projectile sur un match de l'équipe de France. Alors que sur un plan statistique, quand vous avez 50, 60, 80 000 personnes dans un stade, il y a autant de gens qui sont peut-être un peu limités et qui ont la possibilité de verser comme ça dans un geste de folie. C'est parce qu'il y a un climat. Il y a un climat de haine qui est généré par l'ensemble des supporters qui font qu'à un moment donné, les personnes les plus limitées se sentent légitimées dans le fait de passer à l'acte et de jeter une bouteille. Ce qui a accompagné hier ce geste, ce sont des chants incessants, des insultes.
Mais parce qu'il y a des ultras
Dimitri
dans
Payet.
Les clubs, alors qu'il n'y a pas d'ultra pour l'équipe de France
mais
de football.
L'ultra n'est pas par essence grossier et violent. Vous avez de nombreux exemples.
Si vous me permettez, c'est là qu'on n'est pas d'accord et vous le savez bien. Par essence, le mouvement ultra recèle une forme de violence.
Samedi, que vous le vouliez ou non, vous l'avez noté.
Il y a une forme de violence.
Peut-être que vous n'aimez pas
les fumigènes,
mais c'était des mouvements essentiellement festifs et qui ne se sont en aucun cas accompagnés de violence.
Il y a, on va marquer une pause, mais il y a dans le mouvement ultra par essence, c'est-à-dire que ce fanatisme absolu pour son équipe, on aime davantage son équipe que le football d'une certaine manière, ce rapport à son équipe
là,
qui
existe. Mais vous condamnez la passion, c'est autre chose.
Bah, c'est pas une passion, c'est...
Si, la passion, elle est exacerbée.
Je parle de fanatisme. Bon, il y a dans le phénomène ultra quelque chose en soi qui est violent. Et c'est ça qui est complexe.
Non, parce c'est le hooliganisme qui est violent.
Oui, bah, les passerelles, cher ami, elles sont parfois tenues. Elles sont tenues 13h19. Cédric va être là dans une seconde. C'est passionnant ce débat parce qu'en plus, il révèle la société française, hein, d'une certaine manière. Ça se passe pas en Angleterre, par exemple, ça. À tout de suite.
Jusqu'à 14h30.
Les auditeurs ont la parole sur RTL. Pascal Pro.
Les auditeurs ont la parole sur RTL.
Laurent Plessier.
Le match de la honte entre Lyon et Marseille hier soir. Rencontre arrêtée à la 4e minute après un jet de bouteille sur le joueur marseillais Dimitri Payet. Il s'apprêtait à tirer un corner.
Oh, les projectiles. Oh, il est touché. Il est touché, Dimitri Payet. Là, il a reçu quelque chose dans la tête.
Oh, ah, il s'écroule. Et il s'écroule au sol.
Le match est arrêté.
On a l'impression de revivre ce qui s'est passé à Nice.
Le staff de l'OM qui demande aux joueurs de rentrer au vestiaire. Ils viennent chercher les joueurs, les membres du staff de l'OM, en disant au vestiaire.
Il aura fallu attendre près de 2 heures pour voir le match définitivement arrêté. Jean-Michel Aulas, le président de Lyon, souhaitait la reprise de la rencontre. Écoutez sa déclaration sur Prime Vidéo.
L'arbitre, M. Buquet, avait décidé la reprise du match. Et puis, il y a eu une réaction extrêmement violente de la part de Marseille. Mais c'est vrai que la décision est vraiment incompréhensible, puisque comme l'auteur indépendant de ce geste a été incarcéré, il est en garde à vue maintenant. On pense que le match pouvait reprendre sans aucun problème.
Comment finir avec ces actes de violence? 32-10, 3-2-1-0.
C'est un jeu de dupes, parce que si Jean-Michel Aulas était le président d'une équipe dont un joueur vient d'être touché, il aurait fait exactement ce que l'Olympique de Marseille a fait, bien évidemment, parce qu'il aurait compris comment il pouvait tirer bénéfice immédiatement de cela, parce que Marseille peut avoir un match gagné. Donc, faut pas qu'il vienne raconter j'allais dire des salades, Jean-Michel Aulas. C'est un peu trivial, mais il faut pas qu'ils viennent raconter.
Non, mais vous le dites avec le sourire, mais moi je trouve ça très dommage.
Oui, bien sûr.
Jean-Michel Aulas est à juste titre présenté depuis 20 ou 30 ans comme le principal dirigeant et le meilleur dirigeant du football français.
Ce qui est sans doute vrai d'ailleurs.
Il fait partie de l'équipe de Noël Le Graët à la Fédération Française de Football. Un peu de hauteur de vue.
Il défend les intérêts de son club comme toujours. Alors, j'ai l'impression de faire on refait le match parce que Cyprien Sini nous a rejoint.
Mais
oui, mais bon, Cyprien, il a grandi dans les travées du stade Vélodrome. Mais il était un supporter un peu agité à l'époque. Mais c'est l'émission des auditeurs. Donc d'abord Cédric, et puis après vous donnerez votre avis. Cyprien Sini, il nous intéresse. Cédric, bonjour.
Bonjour Pascal, bonjour Cyprien, bonjour Philippe, il me semble.
Bah oui, on est en train de faire, on refait le match, si vous voulez. Donc.
Oui, juste, alors je suis d'accord avec toi Pascal sur ce que vient de dire Jean-Michel Aulas. Je vais juste rappeler que Jean-Michel Aulas, il a fait exactement la même chose qu'a fait hier Marseille. En tout cas, il a essayé de faire la même chose, je crois que c'était face à Metz quand Lopez avait pris des projectiles dans les cages.
Tout à fait, donc, le match avait été arrêté d'ailleurs.
Exactement, donc en fait, en réalité, voilà, il se contredit un petit peu, bref, je ne vais pas revenir là-dessus. Moi, ce qui m'a choqué hier, au-delà du fait du geste du pseudo-supporter, évidemment, c'est, si vous voulez, l'incompétence absolue, enfin la quintessence de l'incompétence de la LFP, en réalité. Ça veut dire, il nous a fallu 2 heures pour arrêter définitivement un match. La LFP, aujourd'hui, paye les conséquences de ne pas avoir pris les bonnes décisions entre Nice et Marseille. Ça, c'est une évidence, parce que s'ils avaient pris les bonnes décisions à ce moment-là, eh ben, on n'en serait pas là aujourd'hui, j'en suis convaincu. Par ailleurs, je voudrais le dire, il faudrait peut-être prendre exemple sur le foot amateur. Alors moi, je suis joué au foot depuis 34 ans, j'ai 41 ans, je joue encore. J'ai été vice-président de club, je suis bénévole dans les clubs depuis toujours, j'ai été membre d'une commission de discipline de district. Et je voulais vous dire que nous, on a un barème. Ça veut dire que cette histoire, en cas d'agression de joueurs, d'arbitres, d'envahissement de terrain, quoi que ce soit, ça aurait été réglé en 2 minutes. C'est match arrêté, rapport de l'arbitre, décision, sanction. Les sanctions, elles sont immédiates. C'est-à-dire que, en district en tout cas, un envahissement de terrain, quel qu'il soit, on va pas chercher les fautifs. C'est 0 point pour l'équipe recevante, perdu, match perdu, fin du bal. Si déjà, par là, on avait un barème de sanctions en fonction des faits, je vous garantis que ça calmerait certains excités de la calotte. Je vous le dis tout de suite. Parce que là, il n'y a rien. Il n'y a pas de barème. Il n'y a pas de sanctions. Les sanctions, on a l'impression que c'est un peu à la tête du client, un peu les petits arrangements entre amis en fonction du club que c'est, Paris, Marseille, Lyon, on verra. Et ça, pour moi, c'est une stupidité absolue. À partir du moment où on a un barème, eh ben on sait directement qu'hier le match il a arrêté, il reprendra pas et qu'on perdra le match, fin du bal.
Cédric Président, merci de ce témoignage, Cédric. Simplement, Philippe Sansfourche, une précision. Jean-Michel Aulas dit depuis hier soir que Rudy Bucquet a changé d'avis. C'est l'arbitre du match. Que d'abord, il souhaitait que le match se reprenne et qu'ensuite, il a changé d'avis. Je n'arrive pas à savoir si cela est avéré.
Ça, il faudra précisément lire le rapport des délégués.
Il y a que lui qui le dit, parce que Rudy Bucquet, comme en plus Rudy Bucquet ne parle pas, on est d'accord.
Alors, il s'est exprimé à la fin de la rencontre chez nos confrères de Prime, le diffuseur. Ce que l'on comprend finalement dans le récit de l'arbitre, c'est que et durant ces deux heures de palabre, c'est que dans un premier temps, il a estimé lui en tant qu'arbitre que sur le plan sportif, à partir du moment où le meilleur joueur de l'équipe adverse était touché et ne pouvait plus reprendre la rencontre, que il y avait une inéquité totale et que pour lui, déjà, il ne fallait pas reprendre cette rencontre. Après, il y a un processus qui est normal. C'est-à-dire qu'il y a une réunion de crise avec des représentants des deux équipes, de la préfecture, des autorités locales. Et là, on lui soumet l'ensemble des composantes. Et là, il n'y a pas que le sportif. C'est-à-dire qu'il y a aussi la sécurité sur la voie publique.
J'entends bien,
est-ce
que
évacuer le stade à ce moment-là est la meilleure solution ?
Mais est-ce que ce que dit Jean-Michel Aulas, c'est vrai ou pas ?
Il y a eu une période de, on va dire, pas de flottement, mais une période durant laquelle il a remis un petit peu son jugement sur la table. Je pense qu'à ce moment-là, Jean-Michel Aulas et les dirigeants lyonnais en ont profité pour s'engouffrer dans la brèche et emmener tout le monde sur le terrain pour reprendre l'échauffement. Et le speaker, à ce moment-là, a annoncé officiellement la reprise de la rencontre. Et ensuite, il est revenu sur sa décision initiale. C'est quand même ça le plus important, c'est qu'il a pris ses responsabilités là.
Mais bon, Cyprien Signy, attendez, je vous présente Cyprien pour les auditeurs. Vous venez d'arriver dans le studio quand même. Je rappelle que, évidemment, vous étiez un supporter de l'OM. Alors, vous m'avez envoyé des textos. Le 29 mars 36, Lyon-Saint-Etienne, incident d'une rare violence. OM Saint-Etienne, 27 août 69, terrain envahi, match interrompu, pelouse recouverte de pierre. Alors, parce que je disais tout à l'heure que ça n'existait pas dans les années.
Ça a toujours existé.
Non, arrêtez.
Ça a toujours existé, c'est juste un problème de médiatisation.
Mais le phénomène ultra, il est nouveau, il y en avait pas.
Mais parce qu'il faut décorréler ça du phénomène ultra.
Mais quand j'étais gosse au stade Marcel Saupin, je n'ai jamais vu un ultra entre 1970 et 1985.
Aujourd'hui, Pascal, il y a beaucoup plus de matchs qu'avant et beaucoup moins d'incidents, proportionnellement parlant. C'est juste qu'il y a le prisme médiatique qui fait que. Mais pour en revenir à ce qui s'est passé hier, qui est très grave, moi je trouve que le pire, finalement, c'est le manque de solidarité entre joueurs de football. Parce que ce qui est arrivé à Payet, ça aurait pu arriver à n'importe quel autre joueur de l'équipe lyonnaise sur un autre match ailleurs. Et à aucun moment, les joueurs lyonnais s'associent avec les joueurs marseillais pour dire « Ok, on arrête, c'est trop dangereux ». Il n'y a pas de solidarité de joueurs là-dedans. C'est club contre club, c'est point contre point. Et c'est pour ça qu'on n'avance pas.
Oui, mais bien sûr, mais c'est intéressant ce que vous dites. On va marquer une pause, on va parler encore pendant 5 minutes, on vous garde tous les deux. Je vous rappelle que c'est l'émission des auditeurs, vous êtes entrés dans le studio.
Je vais déjeuner.
Non, restez deux secondes. 13h29, c'est intéressant votre avis en plus. À tout de suite.
Jusqu'à 14h30.
Les auditeurs ont la parole sur RTL.
Avec Pascal Pro.
Votre avis nous intéresse. Appelez le 3210. 50 centimes la minute.
13h, 14h30.
Les auditeurs ont la parole sur RTL.
Avec Pascal Pro.
Marco est avec nous et je rappelle que Philippe Sansfourche, j'entends des choses pendant la pause qui sont incroyables. Philippe Sansfourche vient de dire la Ligue ne devrait pas être l'émanation des présidents de club, mais enfin ça, mais vous
bien
êtes
entendu.
Tombé sur la tête.
Bah, si on se pose la question de savoir pourquoi aujourd'hui le président Vincent Labrune ne met peut-être pas autant d'énergie qu'on aimerait à s'attaquer à ce problème-là, mais passe ses journées et a beaucoup travaillé, c'est quelqu'un qui travaille beaucoup, mais sur le plan
la Ligue
commercial, pour créer une société commerciale, pour vendre les droits à l'étranger, pour aller avec les Chinois, très bien. Sauf que la Ligue, elle est rattachée à la Fédération Française de Football, qui elle-même est une délégation de service public. C'est-à-dire qu'il y a des obligations qui sont autres que commerciales quand on est à la Ligue. Et on ne peut pas être que l'émanation du bon vouloir des clubs
Philippe,
de Ligue 1.
Franchement, vous serez les premiers, s'il n'y a plus les joueurs en Ligue 1, à venir crier. Parce
non, mais
qu'il
ça
n'a rien
à voir.
Mais si, parce qu'effectivement, il y a du business dans la Ligue. Mais faisons le match. C'est l'émission des auditeurs.
Mais juste,
c'est
vous créez un système où ils sont jugés partis. Jean-Michel Aulas, il est vice-président de la Fédération Française de Foot. C'est quand même compliqué après d'aller sanctionner.
Mais j'ai deux ultras dans le studio. Marco, bonjour.
Oui, bonjour Pascal.
Marco, c'est l'émission des auditeurs.
Jean-Philippe Sansfourche, bonjour.
Oui,
bonjour.
C'est Philippe tout court, mais c'est
bonsoir,
pas grave. Allez-y,
excusez-moi,
Marco.
Excusez-moi. Oui, bonjour. Voilà, écoutez, moi je sais que mon père a perdu un petit cousin au Stade des Ailes. Il va falloir attendre quoi en France ? Qu'il y ait le même genre d'incident très, 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 très grave. Moi, je dis que sanctionner les clubs, c'est pas forcément un bien. De un.
parce que sinon, moi je suis supporter de Valenciennes depuis l'âge de mes 12 ans, ou sinon il faudrait un stagiaire derrière chaque supporter, parce que n'importe quel supporter est capable de péter un plomb et de foutre le brin comme ça a fait hier. D'accord. Après, de mettre 2 heures pour prendre une décision, je pense que c'est la moindre des choses, parce qu'il y a un tas de paramètres à mettre en considération. Après, Jean-Michel Aulas, lui, veut sauver son club. Donc, Nice-Marseille, il dit c'est inadmissible qu'on n'ait pas pris des sanctions plus fortes contre Marseille, contre Nice, ici et là. Et puis là, il dit tout l'inverse. Non, je suis pas d'accord. Et maintenant, tomber sur le dos de Rudy Buquet, qui est le seul à avoir pris une sage et véritable décision, je dis que c'est trop simple. C'est trop simple. Maintenant, je pense que la personne qui a acheté la bouteille hier, si elle est récidiviste, exclue de stade à vie dans le monde entier. Pour n'importe quel sport.
Merci Marco. Julien sera notre dernier auditeur sur ce sujet et puis on conclura avec nos amis. Julien, bonjour.
Oui, bonjour Pascal.
Votre avis sur ce qui s'est passé hier soir et surtout, on cherche la solution. Est-ce que vous pensez la connaître ?
Alors, bon, je ne pense pas la connaître parce que j'ai pas la science infuse, mais je pense qu'effectivement, il faudrait un peu de fermeté envers les supporters et pas envers les clubs. Parce qu'envers les clubs, c'est pas forcément efficace, on l'a vu, hein, on met des points de retrait à Nice et ça recommence la semaine d'après, j'exagère, hein, mais ça a recommencé, il y a eu d'autres débordements. Donc je pense pas que sanctionner les clubs soit la solution, par contre les supporters, c'est une solution. Maintenant, sanctionner un groupe de supporters, c'est sanctionner beaucoup de monde, alors qu'il y a au final très peu de responsables. Donc je pense qu'une sanction sévère d'interdiction de stade, de pointer au commissariat chaque jour de match dans sa ville, dans son stade, ça ce serait des sanctions qui seraient je pense pour moi efficaces.
Bah écoutez, pourquoi pas. Merci beaucoup Julien, on va conclure. Je vous en prie.
Je voulais juste rajouter que je suis supporter du Stade de Reims. J'ai jamais vu débordement comme ça au Stade de Reims. On a reçu 3 il y a 3 semaines et il y a eu aucun souci alors que c'était un derby de la Champagne qu'on n'avait pas vécu depuis 6 ans. Et Jean-Pierre Théliot, président du Stade de Reims, c'est aussi président des clubs de Ligue 1. Et je pense qu'à ce titre, il devrait prendre le dossier en main et mener des actions pour sévir envers ce genre de comportement.
Merci Julien.
Vous voulez Cyprien. La solution ? Moi, je voulais la solution.
Oui, dites-la moi,
ça
m'intéresse.
C'est plus simple. Oui. C'est-à-dire que vous arrivez à cibler les gens qui font ça, donc bon, interdiction de stade à vie, etc. Mmh. Et surtout, vous enlevez 3 points à l'équipe qui est responsable de ce supporter-là. Non, mais attendez, le supporter, il est OK, c'est pas forcément tous des lumières, parfois il y a des erreurs, etc. Ils sont un peu limites. Mais s'ils risquent de faire perdre leur équipe immédiatement, enfin, qu'il n'y ait même pas de discussion. C'est-à-dire qu'il n'y ait même pas de discussion.
D'accord.
C'est voilà, hop,
une
3
solution.
Points perdus. Je pense que vous aurez moins de gestion.
Alors, ça, on a bien on a entendu toutes les possibilités. À votre avis, Philippe, et ça sera le dernier mot, réunion demain de la Ligue. Qu'est-ce qui va se passer ? Est-ce que vous avez des infos ? Est-ce qu'il y a un climat ? Qui va décider ?
Alors, pour l'instant, on n'a pas le menu, mais c'est réunion au ministère de l'Intérieur par
convocation. Donc, Gérald Darmanin, par exemple, il a les moyens de taper du poing sur la table. S'il veut dissoudre les associations,
mais
il peut
le faire. Ça ne sert à rien de dissoudre. Oui. Je ne sais pas pourquoi vous avez ça dans la tête depuis le début de l'émission.
Si vous me permettez, d'abord, je trouvais ça dur, injuste et ça enlève du spectacle au stade. Il y a une chose. Ça ne sert à rien.
On
parlait d'un site
en Nice. La brigade sud à Nice, elle a été dissoute il y a quelques années. Regardez-le à Nice, à chaque fois, c'est carnage.
Le placement aléatoire est une possibilité qui a fonctionné au Paris Saint-Germain, au Parc des Princes, que vous le vouliez ou non. Il n'y a plus d'incident. Après,
il n'y a plus d'ambiance pendant quelques années.
Oui, c'est peut-être une solution transitoire.
C'est peut-être placement aléatoire, c'est-à-dire que les gens ne se regroupent plus ensemble. Je sais que ça vous plaît pas, peut-être.
Non, ça me plaît pas.
Oui,
non,
ça
mais
vous
il est
plaît
évident
pas,
que même en étant un fervent défenseur des supporters et des ultras, comme je le suis depuis des années, on ne peut pas nier que ce climat de haine et d'insultes permanents qu'il y avait notamment hier au Groupama Stadium n'a pas joué à un moment donné sur le déclenchement des violences.
Eh ben merci, en tout cas vous êtes restés 37 minutes avec nous, je vous remercie vraiment grandement, merci à
moi
tous les
autres.
Oui, on mange pas, c'est les animaux qui mangent, on déjeune, on dîne, si vous voulez, ou alors on ne mange pas, cher ami.
J'aime beaucoup ce que vous faites.
Donc on déjeune à cette heure-là, soyez gentils s'il vous plaît, il y a des mots quand même pour la France. Mais je vous aime comme beaucoup, vous le savez Cyprien. Il est 13h38, merci Philippe Sansfourche. Damien Béchiot, La Guadeloupe. Et puis, comme il fait froid, vous vous souvenez de ce titre des compagnons de la chanson ? Fais du feu dans ma cheminée, je reviens chez nous.
On va essayer de le retrouver, Pascal. Mais
c'est toujours assez moderne ce que je chante. Hein. Je ne sais pas si vous avez remarqué. À tout de suite.
Les auditeurs ont la parole sur RTL.
Avec Pascal Pro.
Les auditeurs ont la parole sur RTL.
Avec Pascal Pro.
13h41, Laurent.
Il faut que l'ordre public soit maintenu. La situation est très explosive en Guadeloupe. Ce sont les mots d'Emmanuel Macron. Des renforts du GIGN et du RAID sont présents sur place pour faire face aux violences urbaines. L'île est secouée par un mouvement qui a pour origine la contestation de l'obligation vaccinale des soignants et le pass sanitaire.
Moi, je veux d'abord dire aux Guadeloupéennes et aux Guadeloupéens que la nation, depuis le début de cette crise, est à leur côté. Notre priorité, c'est de continuer à convaincre que la vaccination est la meilleure protection. Et ne rien céder aux mensonges, aux détournements d'informations et à la manipulation par certaines et certains de cette situation. Ensuite, il y a une situation qui est très explosive, qui est liée à un contexte très local, à des tensions qu'on connaît et qui sont historiques, et aussi à certains intérêts qui cherchent un peu à utiliser ce contexte et l'anxiété.
Victorin Lurel, sénateur socialiste de Guadeloupe, fait partie des élus qui rencontreront Jean Castex ce soir à Matignon. Il était votre invité, Pascal, dans RTL Midi.
Le gouvernement sera bien obligé d'ouvrir une négociation, non pas sur le pass sanitaire qui est devenu aujourd'hui un prétexte. Ce n'est pas le vaccin qui est le responsable des malheurs de la Guadeloupe. C'est un abandon des gouvernements successifs depuis une quarantaine d'années sur tous les services publics. Vous prenez le cas de l'eau aujourd'hui en Guadeloupe. En pleine pandémie, dans la partie sud de la Grande Terre, la deuxième, la partie plate de l'île, eh bien, il n'y a pas d'eau.
Vous pouvez réagir dès maintenant au 3210 3210.
Eh bien, justement, on va parler de la Guadeloupe. Nous sommes avec Fabrice. Bonjour.
Bonjour, Pascal Pro.
Merci d'être avec nous. On sent là-bas qu'il n'y a pas que ce problème de vaccin, que c'est autre chose, le rapport peut-être à la métropole, le rapport à l'État central dans ce conflit qui agite aujourd'hui nos compatriotes guadeloupéens.
Oui, je rejoins vos propos, mais je pense que il faut rester sur un ordre républicain, c'est-à-dire que force doit rester à la loi. Je pense que si le gouvernement, M. Macron et M. Darmanin, que j'estime énormément au ministère de l'Intérieur et qui apporte beaucoup au niveau du ministère de l'Intérieur dans ses décisions et qui veut faire on voit qu'il a cette envie de protéger la population des réfractaires. Pourquoi ? Parce que depuis 4-5 jours on voit des réfractaires, des anti-vaccins, des anti-pass, mais pourquoi ça doit donner lieu à des violences qu'on va considérer comme des violences urbaines, de pillage, de mettre en danger les gens qui sont vaccinés en Guadeloupe. Vous savez, les pourcentages de l'outre-mer ne sont pas ceux de notre propre métropole. Moi, j'ai l'impression qu'on risque d'avoir une contagion. C'est-à-dire que l'exemple de la Guadeloupe, de la Martinique, si demain le gouvernement devra annoncer de nouvelles mesures, de nouvelles éventuelles restrictions, de par les 20 000 cas et une progression de 80% du Covid dans cette période qui est fulgurante, quelle sera notre réaction aussi en métropole ? C'est-à-dire que je pense que la Guadeloupe et la Martinique ne donnent pas un bon exemple pour les réfractaires, et je dis bien les réfractaires, les inconscients, même peut-être des inconscients, qui se disent « non, on va jouer l'esprit rebelle jusqu'au bout, on ne se fait pas vacciner ». Si jamais on se fait pas vacciner, on mettra un petit peu l'ordre républicain en France à mal. Donc non, je pense que le gouvernement a raison de taper des poings sur la table, d'envoyer des renforts. Vous savez, l'outre-mer n'a pas les forces républicaines qu'on a sur notre propre métropole. Oui, on envoie des renforts. Je pense qu'il faut parler à tout ça et il faut respecter un couvre-feu. On n'a pas le droit d'assister à des scènes de pillage. Les images qu'on voit dans chaque actu aux différents journaux.
C'est terrible, effectivement. Alors, il y a beaucoup de témoignages. Par exemple, j'ai un témoignage qui m'arrive à l'instant et il faut toujours prendre les témoignages avec des pincettes, bien évidemment. Mais quelqu'un me dit on organise une manifestation sportive en Guadeloupe. Nous sommes obligés de passer par la mer, car sur la route, il y a des barrages avec des drogués qui demandent 10 euros pour pouvoir se payer leur crack. Et on confond la délinquance de la drogue avec la revendication sociale. Alors évidemment, je ne peux pas vérifier ce que je viens de vous dire là. Je ne suis pas sur place. Ce n'est qu'un témoignage, bien évidemment, qu'il faut prendre avec distance. Mais peut-être faut-il écouter ce que cette personne, en l'occurrence, écrit.
Oui, je pense que le gouvernement a peur d'une contagion sur notre propre métropole, parce que là, ça touche les départements d'outre-mer. Et je félicite l'ensemble de mes collègues qui ont été envoyés en renfort et qui vont faire front à ces scènes de pillage. Et c'est irréductible, ces inconscients qui derrière vont détruire peut-être des gens qui sont conscients de se dire bah oui, le vaccin, alors certes, Le pourcentage de vaccinés n'est pas le même que chez nous, mais moi je pense que, et surtout en période préélectorale comme on l'est actuellement, je pense que le gouvernement il est sur un fil, hein, c'est tel un acrobate, mais à un moment ou à un autre, je pense qu'on a peur le gouvernement a peur d'une contagion, parce que des irréductibles en France, on a 75% de vaccinés, mais 25% aussi d'irréductibles, et je pense que le gouvernement a peur que cette ampleur arrive sur notre territoire vraiment au niveau de la métropole. Mes forces doivent rester à la loi. Moi, je félicite vraiment M. Darmanin, et qui peut être sous un autre gouvernement ou le même, mais c'est quelqu'un de très intéressant et qui apporte au niveau des engagements et de la sécurité des territoires beaucoup de choses.
Eh bien, merci beaucoup, Monsieur Fabrice. Je rappelle que vous êtes policier, vous êtes en Savoie. Il est 13h47. Le lundi est toujours un moment d'incertitude et de suspense, disons-le, pour savoir comment Monsieur Olivier, qui s'occupe de la page Facebook, a passé son samedi et son dimanche. Dans quel état d'esprit ? Est-ce que il y avait un peu de légèreté ou au contraire de la souffrance ?
Exactement. Vous voulez le savoir ?
Oui.
Eh bien, écoutez, Pascal, j'ai été au cinéma avec une femme, accompagnée, Pascal. Eh oui, au cinéma.
Vous êtes allé voir quel film ?
Je suis allé voir Illusion perdue, une adaptation du roman d'Honoré de Balzac. Voilà, pour un petit peu.
Ça vous a plu ?
Cultivé, oui. Par contre, cette femme qui était avec moi, c'était ma meilleure amie. Alors, je ne sais pas si ça compte, Pascal, du coup, dans le.
Bah, ça, c'est votre vie privée, cher ami.
Ah oui, d'accord, dans l'algorithme.
Bon, vous avez aimé Les Illusions perdues de Monsieur Giadoli.
Exactement, c'était, bon. C'était superbe. Et moi, ma culture en est ressortie grandie, pour une fois.
Bah, grande, mais pourquoi pas. Bon.
Voilà.
Vous nous dites des choses sur la page Facebook.
Allez, on y va, c'est mon métier. Sur nos pages Facebook et Twitter, Pascal Pourani, envoyer les forces armées en Guadeloupe, c'était la seule solution. Franck également sur notre page Facebook. Quand on voit ce qui se déroule là-bas, on se croirait en pleine guerre civile. Et on termine avec Eric. Ça fait des années que la Guadeloupe est laissée de côté. Voilà le résultat.
Alors évidemment, dans cette adaptation, vous avez sans doute été surpris, puisque s'il y a Lucien de Rubempré, il y a deux personnages qui ont disparu.
Je vous préviens, je n'ai pas tout compris.
C'est Rastignac. Bon, il n'y a rien à comprendre.
Ah, d'accord.
Rastignac et Vautrin ont disparu dans cette adaptation. Mais bon, c'est intéressant quand même. Et puis c'est bien joué. Gérard Depardieu est notamment absolument formidable. On marque une pause. Tout à l'heure, je vous parlais de Fait du feu dans la cheminée, je reviens chez nous. Et c'est vrai que quand on était enfant, les compagnons de la chanson arrivaient toujours à cette période-là. Ils sont associés à Noël, les compagnons de la chanson. Et je crois que Damien Béchiot, qui se moque parfois de goûts
jamais,
musicaux,
jamais,
ce qui
Pascal.
Sont un peu datés, à retrouver cette petite chanson. Je reviens chez nous. Mais toute la France reconnaît ça.
S'il fait du soleil à Paris, il en fait partout.
Mais Jean-Alphonse Richard, qui est de ma génération, connaît ça par cœur.
C'est un beau duo, en tout cas.
Vous savez quel est le soliste, la voix du soliste, là ?
Du tout.
Fred Mella.
Hein ?
Mais c'était Fred Mella qui était...
Il,
alors...
il est toujours vivant.
Non, il est décédé, Fred Mella. C'est le dernier décédé. Il est décédé il y a moins d'un an. Alors, il y avait Geoffroy Chon, il y avait M. Joubert, qui avait été longtemps avec Édith Piaf, parce que les compagnons sont associés à Édith Piaf. Bon, tout ça, évidemment, c'est il y a
cloche,
très très longtemps.
Les cloches sonnent,
sonnent, bien sûr.
C'est pour mon chant, François Nico.
13h48, nous revenons dans une seconde pour parler une dernière fois de la Guadeloupe et puis on parlera de Jean-Christophe Lagarde. Tiens, on attend le petit...
C'est du feu dans la cheminée.
Belle chanson.
Je reviens chez nous.
C'est une jolie mélodie, elle pourrait être prise par les enfoirés.
S'il fait
à tout de suite.
Soleil à Paris,
Jusqu'à 14h30,
les auditeurs ont la parole sur RTL
avec Pascal Pro.
Pascal Pro,
les auditeurs ont la parole sur RTL.
Nous sommes avec John. Bonjour John.
Comment tu vas ?
Ah ben je vais très bien John, et puis ça me fait plaisir de vous entendre. Alors restez deux secondes avec nous John, parce que Laurent Tessier souhaitait rajouter quelque chose.
Oui, que pense Jean-Yves Le Drian, le ministre des Affaires étrangères, du retour de Sophie Petronin au Mali? L'ex-otage avait été enlevée et retenue pendant près de 4 ans par un groupe djihadiste. Écoutez sa réponse hier dans le Grand Jury sur RTL.
Qu'elle y reste. On ne peut pas, pendant plusieurs mois, voire plusieurs années, mobiliser les services secrets, y compris les militaires, pour essayer de sortir cette femme de sa situation d'otage, de la ramener, et ensuite elle repart
si
en disant « je suis bien là ».
Si elle,
si elle est bien au Mali, qu'elle y reste.
Mais si elle est à nouveau prise en otage, que fera la France ?
Écoutez, elle dit qu'elle est bien, donc j'imagine qu'elle est bien.
Qu'elle y reste, les mots de Jean-Yves Le Drian, le ministre des Affaires étrangères. Vous pouvez réagir au standard. C'est le dérapage du week-end. Jean-Christophe Lagarde, président de l'UDI, a tenu hier des propos d'une grande violence contre Éric Zemmour. Il était chez nos confrères d'Info.
Se foutre du monde au point de dire « je suis un RPR ». Mais monsieur Zemmour, si monsieur Pasqua était là, il te filerait une balle dans la tête.
Quelques minutes plus tard, Jean-Christophe Lagarde dit avoir regretté son expression totalement inappropriée. Dans un communiqué, Éric Zemmour parle d'un mea culpa de pacotille et ne l'excuse pas. Là aussi, vous pouvez réagir au 3210-320.
Et Jean-Yves Le Drian, il est sorti de la diplomatie traditionnelle, mais il a dit ce que tout le monde pense au fond. Voilà. Et d'une manière très, très directe. John.
Yes.
John, vous êtes où ?
Ouais, je suis au Croisic.
Ah, bah écoutez, c'est un bon point de vivre au Croisic. C'est agréable. Sur l'océan.
Je vais vous dire, franchement, vous avez la classe.
Mais encore ? Mais
ouais, beau gosse et tout.
Oui, non, classe. Mais c'est pas. Je suis d'accord avec vous, mais on parle plus de la. Là, vous nous appelez pour parler de la Guadeloupe.
Ouais, tout à fait, ouais.
Bon, qu'est-ce que vous souhaitez dire sur ce sujet, John ?
Bah, qu'ils prennent l'indépendance et puis voilà.
C'est la France, c'est la France, la Guadeloupe, c'est une terre de France depuis.
Oui, rendez-vous compte.
Depuis toujours.
On est obligé de sortir GIGN, les militaires, tout ça là.
Il faut peut-être essayer de comprendre cette situation. Est-ce qu'il y a derrière cette il ne faut pas tout mélanger d'ailleurs. Hein. Il y a parfois des problèmes politiques qui n'ont rien à voir avec les problèmes sociaux.
Non mais après c'est bon, ça va. Vous regardez en Guadeloupe, il y a le Pôle Emploi est juste à côté de la SNCF.
Bon, John, restez quelques secondes avec nous, puisque Jean-Alphonse Richard, que vous connaissez, est là, et il est 13h55-56, c'est toujours le moment où Jean-Alphonse vient nous annoncer l'heure du crime, et je l'en remercie grandement. Bonjour.
Bonjour Pascal, vous allez bien ?
Écoutez, très bien, nous avons passé un week-end peut-être plus intéressant que celui de notre ami Olivier.
Oui, bah c'est possible, quoique...
Pas sûr.
Balzac, c'est toujours une valeur sûre.
Balzac, c'est formidable.
La rencontre avec Balzac, elle est toujours formidable. Je vous pose la question si vous allez bien, parce que j'ai un dossier médico-judiciaire dans l'heure du crime aujourd'hui. Est-ce que vous connaissez le syndrome de Munchausen par procuration ?
Ça me dit quelque chose. Alors, j'ai dû apprendre ça et oublier depuis.
Très brièvement, c'est inventer des symptômes sur une enfant, votre enfant, en créant sa maladie, en lui injectant des produits, en lui donnant des comprimés divers et variés. Tout simplement, c'est une forme de sévice, évidemment. Hein, tout simplement pour prouver à cet enfant que vous l'aimez, que vous allez la sauver et prendre soin d'elle.
C'est ça le syndrome de Munchausen.
Le syndrome de Munchausen par procuration. Et on va vous raconter dans l'heure du crime l'affaire Kaskaz. C'était en 1990. C'est la première affaire de syndrome de Munchausen que la justice a affrontée. Et c'était en 1990. La mère, Liliane, suspectée d'avoir injecté de l'insuline à sa fille pendant des semaines. Il va y avoir une enquête judiciaire qui va pas être facile parce que c'est pas une névrose facile à détecter. Et les juges se sont penchés à cette époque pour la première fois sur ce cas, le syndrome de Munchausen, dans l'heure du crime.
Eh bien, merci. Merci beaucoup. Il est 13h57. On va marquer une pause. et revenir peut-être avec Jean-Christophe Lagarde, ce qu'il a dit d'Éric Zemmour. Il s'est excusé hein, d'ailleurs tout de suite après, mais ce qui est intéressant là aussi pour le patron de l'UDI, c'est que ça fait sens sur la violence de cette campagne électorale. On parlait tout à l'heure de la violence des supporters, mais vous avez aussi des gens comme Jean-Christophe Lagarde qui ont des postes importants et qui sont capables de dire s'il revenait sur Terre, Pasqua mettrait une balle dans la tête d'Éric Zemmour. C'est vrai que ça interpelle quand même, disons-le. À tout de suite.
Les auditeurs ont la parole sur RTL.
Avec Pascal Pro. Participez au débat en appelant le 3210.
50 centimes la minute.
RTL. Il est 14h. Le flash avec Sébastien Rouxel.
Dimitri Payet, toujours très choqué, c'est ce qu'il a confié à un ami après les incidents hier soir lors du match de foot entre Lyon et Marseille, nous rapporte notre correspondant Hugo Hamelin. Le milieu de l'OM a reçu une bouteille sur le crâne. L'Olympique lyonnais, qui a porté plainte, réclame cet après-midi des sanctions pénales exemplaires contre l'auteur de cette agression. Une réunion sera organisée demain au ministère de l'Intérieur entre l'exécutif et les représentants de la Ligue. En Guadeloupe, la situation est explosive, ce sont les mots employés ce matin par Emmanuel Macron. Le chef de l'État lance un appel au calme, demande à ne rien céder aux mensonges et à la manipulation. La contestation liée à la vaccination obligatoire de certaines professions a viré à la crise sociale ces derniers jours. Pillages, incendies, tirs contre les forces de l'ordre dans l'archipel. Jean Castex recevra ce soir les élus de Guadeloupe à Matignon. Parmi eux, Victorien Lurel. Pour lui, cette réunion ne suffira pas à calmer les esprits.
Le gouvernement sera bien obligé d'ouvrir une négociation, non pas sur le pass sanitaire qui est devenu aujourd'hui un prétexte. Ce n'est pas le vaccin qui est le responsable des malheurs de la Guadeloupe. C'est un abandon des gouvernements successifs depuis une quarantaine d'années sur tous les services publics.
Victorien Lurel, sénateur de Guadeloupe, invité de RTL Midi. À retenir également dans l'actualité en Allemagne, les restrictions actuelles ne sont plus suffisantes, estime Angela Merkel. Étant donné l'évolution de l'épidémie, la situation sanitaire va être pire que tout ce que l'on a connu jusqu'ici dans le pays, selon la chancelière. En France, la ministre du Travail, Elisabeth Borne, appelle les entreprises à se remobiliser sur le respect des gestes barrières. Et puis le mari de Delphine Jubilar reste en prison. Sa demande de remise en liberté a une nouvelle fois été rejetée par la cour d'appel de Toulouse. La météo demain, du soleil presque partout, sauf près des Pyrénées, sur les Alpes, où l'on aura des averses, parfois quelques flocons, voire même de l'orage du côté du Roussillon. La mauvaise nouvelle, c'est que le froid s'installe, les températures ne dépasseront pas 4 à 7 degrés dans l'après-midi en général. Les courses et l'arrivée provisoire du Quintet cet après-midi à Vincennes, le 10, le 7, le 14, le 5 et le 12. RTL, 14h02, on vous retrouve, Pascal Praud, pour la suite des auditeurs ont la parole.
Merci beaucoup, Sébastien.
Jusqu'à 14h30,
les auditeurs ont la parole sur RTL
avec Pascal Praud.
C'est le dérapage du week-end. Jean-Christophe Lagarde, qui est président de l'UDI, a tenu hier des propos d'une grande violence contre Éric Zemmour. Se foutre du monde au point de dire « si je suis un RPR, monsieur Zemmour, si monsieur Pasqua était là, il te filerait une balle dans la tête ». Jean-Christophe Lagarde dit regretter son expression totalement inappropriée. Mais c'est significatif de beaucoup de choses. D'abord de l'état de délabrement du débat public. Ensuite, il y a assez peu de réactions, finalement. C'est toujours pareil, chacun choisit ses victimes, chacun choisit ses cibles, chacun a des indignations sélectives. Si c'était Marine Le Pen ou Éric Zemmour qui avait qualifié un des adversaires politiques comme cela, toute la classe politique montrait au créneau. Là, que je sache, Jean-Luc Mélenchon, Madame Hidalgo et d'autres n'ont pas tweeté, manifestement. C'est ça qui est toujours frappant, les indignations sélectives. Alors, nous sommes avec Théo, et Théo va pouvoir nous dire ce qu'il en pense. Il a 22 ans, vous êtes étudiant en 3. En droit, je précise quand même que M. Lagarde, c'est... D'ailleurs, il a regretté ses propos. Il ne s'est pas excusé, ce qui n'est pas la même chose. Il n'a pas dit « je présente mes excuses ». Il a regretté ses propos et il a fait un mea culpa. Ce n'est pas exactement la même chose.
Après, bon, vous avez résumé déjà la partie sur le deux poids deux mesures qui est constant. Et ensuite, bon, c'est toujours la même chose. Si vous voulez, ces gens-là s'excusent, font des mea culpa.
Ils ne sont pas que s'excuser. Hein, il n'a pas dit « je me présente mes excuses ».
Font des mea culpa... Seulement après que la polémique éclate. Et après, bon, moi, j'aimerais quand même souligner que la première victime dans ses propos, c'est pas Éric Zemmour, hein, c'est Charles Pasqua, auquel il prête des intentions de meurtre. Donc voilà, quoi, ça, c'est assez aussi cocasse de voir quelqu'un anciennement de l'UDF qui qui pense savoir ce que quelqu'un du RPR aurait fait. Voilà, faut bien aussi avoir en tête qui est Jean-Christophe Lagarde. Hein, c'est quelqu'un qui enchaîne les polémiques, qui enchaîne les mandats. Le cumul des mandats, ça a été sa spécialité pendant 20 ans. Hein, il a commencé son premier mandat, j'étais même pas né. Et avec quel résultat, quand il a été maire de Drancy, il a complètement islamisé sa ville. Hein, il y a eu un livre qui est sorti, Le maire et les barbares, de Ève Setzel, il me semble, je ne sais pas si je prononce bien son nom. Qui est remarquable, qui montre comment...
Je mets un peu une nuance dans ce que vous avez dit. Évidemment, il n'a pas islamisé sa ville, M. Lagarde. En tout cas, c'est un propos polémique que vous tenez là. J'apporte de la modération à ce que vous avez dit.
La mairie de Drancy, sous son mandat, employait des membres du gang des barbares. Hein. Je ne sais pas si vous vous souvenez, c'était... ceux qui ont assassiné Ilan Azimi.
Bien sûr, ben, je m'en souviens. Donc, comment pourrais-je oublier
Jean-Christophe Lagarde, ça, il incarne un peu le renoncement quand même. Et donc c'est quelqu'un qui n'a plus aucun militant. Hein. C'est devenu un politicien de seconde zone. Puis voilà, je pense qu'il est un peu, il est complètement dépassé par ce qui se passe. Et puis voilà, quoi.
Ce qui est amusant, c'est toujours, ça fait plusieurs fois que je le dis, mais il ne s'est pas excusé, il regrette ses propos. Et certains, je vois dans les dépêches ou même dans les articles, disent Monsieur Lagarde s'est excusé. Non, il ne s'est pas excusé, ce n'est pas ça, s'excuser. En revanche, qu'est-ce que ça vous dit, selon vous, du climat actuel et pourquoi pas sur Éric Zemmour, sur Marine Le Pen, qui sont souvent des cibles d'une manière peut-être différente du climat traditionnel politique?
Si vous voulez, vous l'avez dit aussi, et c'est révélateur je pense que la campagne de 2022 va être particulièrement violente, pas seulement chez les militants, on le voit déjà, mais bon, ça dure déjà un certain temps, mais ça va commencer, à mon avis, malheureusement, à gagner les politiciens. Parce qu'à mon avis, les sujets qui sont abordés maintenant touchent vraiment à mon avis. Cette campagne en 2022, les sujets qui vont être abordés, ça touche à l'intimité maintenant, ça va être l'identité, et c'est des choses qui sont vachement plus stressantes, en fait, ça pousse les gens dans leur retranchement. Et puis voilà, comme je vous ai dit, à mon avis, il y a une classe politique qui ne comprend pas pourquoi des gens comme Éric Zemmour, qui ne sont pas des politiciens, qui ont été journalistes, fédèrent autant autour d'eux. Puis voilà, pour moi, je me mets à la place de Jean-Luc Mélenchon. Je me dis, si ça faisait 30 ans que je faisais de la politique et que je vois qu'un Éric Zemmour qui débarque fait deux fois plus que moi au premier tour dans les sondages, j'aurais un peu les nerfs aussi, quoi. Donc voilà. Et le fait qu'Éric Zemmour, même, moi personnellement, pour rien vous cacher, je supporte quand même pas mal Éric Zemmour, mais le fait qu'Éric Zemmour soit donné au second tour dans certains sondages, ça lance quand même un appel à la classe politicienne et ça leur rappelle un peu leur médiocrité, en fait. Si la classe politicienne était celle d'il y a 30 ans, je ne pense pas qu'Éric Zemmour serait donné au second tour.
Je rappelle quand même que Coluche en 81 était monté jusqu'à 15% et c'était l'élection présidentielle et il n'était pas allé au bout.
C'était le même contexte. En 81, il y avait une grosse déception du peuple français envers ses élites, etc. Ça s'est traduit d'abord par l'élection d'un socialiste, François Mitterrand, au pouvoir. Mmh. Et ensuite, quand il a prononcé le tournant de la rigueur et qu'il a commencé à trahir sa base électorale, il est de nouveau remonté.
Je vois que vous connaissez bien cette période, même si vous ne l'avez pas vécue. Théo, dernière chose, parce que je vois que vous êtes strasbourgeois, le marché de Noël de Strasbourg, qui est un des plus beaux de France.
Magnifique.
Il est d'actualité toujours, il n'est pas remis en cause, il est en train de se construire.
Normalement, ils avaient essayé de le renommer marché des fêtes, mais heureusement, on a gardé le marché de Noël.
Oui, mais il aura lieu. Hein, pour le moment, il n'y a pas de souci parce que le Covid, parfois, remet... J'ai vu qu'à Munich, par exemple, le marché de Noël était supprimé. Donc, à Strasbourg, pour le moment, il aura bien lieu. Merci, Théo.
Il est déjà ouvert. Hein, vous pouvez...
Bien sûr.
Il ouvre dans 5 jours, il me semble.
Oui, il ouvre exactement ces jours-ci. Merci beaucoup, Théo. Monsieur Olivier.
Oui.
Mais d'ailleurs, si j'ai bonne mémoire, vous ne nous aviez pas dit que vous partiez pour Cannes?
Alors Pascal, vendredi, je vais être très honnête, je n'ai pas osé. Suis timide et je me suis dit que prendre le train pour rejoindre Charlotte, notre auditrice, je suis trop timide, Pascal, c'est comme ça.
Mais c'est bien, la timidité, c'est un joli sentiment, c'est une délicatesse aussi, c'est une manière de se comporter.
Comme ça,
bien sûr, c'est bien d'être timide.
J'ai bien fait donc.
Ah, c'est bien d'être... faut mieux être timide parfois que sans gêne.
Bon, très bien, j'ai votre validation. Bah, allez, sur nos pages
Facebook... Pas trop, toujours, je ne sais pas, faut trouver le juste milieu, sans doute.
Très bien, surtout que ça me connaît. Allez, sur nos pages Facebook et Twitter, Pascal, pour Jean-Claude, si ça avait été Zemmour qui avait dit ça, les journalistes, tous les journalistes de France se seraient soulevés. Annick ajoute, à force de lui taper dessus, on ne fait que parler de lui, il en sort gagnant au final. Et on finit avec Jean-Pierre, pour qu'il soit autant attaqué, c'est qu'il doit vraiment faire peur.
Le marché de Noël de Strasbourg s'ouvrira le 26 novembre prochain, comme beaucoup de marchés de Noël en France. C'est généralement à la fin novembre que s'ouvrent ces festivités. Et il est 14h09, nous marquons une pause et nous continuons le débat avec, ou sur, Jean-Christophe Lagarde.
Les auditeurs ont la parole sur RTL.
Avec Pascal Praud. Jusqu'à 14h30,
les auditeurs ont la parole sur RTL.
Avec Pascal Praud.
Que représentent pour vous vos grands-mères ? Êtes-vous avec vos petits-enfants? La 25e édition de Super Mamie France s'est déroulée hier. La Provençale et doyenne de l'événement, Marie Galliano, 90 ans, a remporté le concours et nous attendons vos appels au standard. C'est l'heure d'une info.
Non essentielle.
Non essentielle.
Il y a les polémiques sur le terrain, mais aussi l'humour, le second degré de certains supporters. Une nouvelle fois déçus par le résultat de Caen, battu à domicile par le Paris FC samedi 1-0. Les supporters normands ont repris et adapté une chanson du rappeur Aurel San pour se consoler. Au fond, j'aime le stade Malherbe. Je ne sais pour quelle raison. Non seulement on ne fait que de perdre, mais en plus, on perd à la maison. C'est beau. Second degré.
Mais oui, mais ils ont de l'humour, les supporters, c'est rigolo. Laurent, bonjour.
Bonjour
Laurent, qui habite l'Eure-et-Loire, et je rappelle, si vous nous rejoignez, qu'on parle de la sortie de Jean-Christophe Lagarde, qui est le président de l'UDI, qui a tenu des propos d'une grande violence contre Éric Zemmour. Il les a regrettés ensuite. Il a dit « Se foutre du monde au point de dire « Je suis un RPR, monsieur Zemmour, si monsieur Pasqua était là, il te filerait une balle dans la tête. » Qu'en pensez-vous ?
Ah ben, ce que j'en pense, bonjour monsieur Pro, bonjour aux auditeurs. J'ai testé devant mon téléviseur, je me suis excité comme une puce tout seul. Vous parliez de violence de la campagne, moi je parlerai de médiocrité. Comment est-ce qu'on est vraiment tombé aussi bas ? Vous êtes un fan de cinéma, il y a un film d'Audiard, je crois, qui faisait toujours des titres à rallonge, c'est pas parce qu'on n'a rien à dire qu'il faut fermer sa gueule. Ben, on est en plein dedans. On nage en plein dedans.
Ah, je préférais les films d'Audiard à Monsieur Lagarde.
Ah ben moi aussi. Bon, oui. Mais on est dans le ridicule consommé. Alors, deux choses. Soit il a perdu ses petits nerfs, et on sait tous, enfin vous comme moi, que quand on perd ses nerfs, on fait tout et n'importe quoi et on dit tout et n'importe quoi. Ou alors il a le trouillomètre, passez-moi l'expression, à zéro. Mais enfin, ça nous illustre sur la hauteur de vue du personnage, sur la grandeur d'idée, sur la façon de penser, sur les méthodes, parce que là, c'est du tchéquisme. Enfin, c'est la tchéka, c'est le NKVD, c'est tout ce qu'on veut, quoi. C'est la balle dans la nuque. Alors, on fait des... Enfin, vous disiez, c'était pas des excuses, c'était je ne sais plus le mot que vous avez employé.
Bah, des regrets, excuses, des regrets.
Des regrets. Alors, je peux déblatérer n'importe quoi, moi aussi, sur Monsieur Pasqua. Le sac, etc. Enfin, je suis désolé, j'ai un petit peu de mémoire historique, le service d'action civique. Et on va me tomber dessus au tribunal en disant que j'ai dénigré M. Pasqua. Mais je dis, mais je ne l'ai pas fait, je le pensais pas, excusez-moi.
Bon, il est président en tout cas de l'Union des démocrates et indépendants, l'UDI.
Oui. Bah dites donc, il ferait peut-être bien de renouveler un petit peu les cadres.
Il est député français depuis juin 2002, donc c'est quelqu'un qui est réélu régulièrement, manifestement. Il a été réélu en 2007, en 2012, en 2017. Ça fait 20 ans qu'il est à l'Assemblée nationale. Il a été maire de Drancy de 2001 à 2017. Vous voyez, c'est quand même quelqu'un qui a un CV.
Oui,
c'est pour ça
il
que
a un parcours,
c'est.
Voilà. Il a un c'est, parcours. Je suis d'accord
c'est,
avec
c'est,
vous.
C'est intéressant. Et donc, on peut regretter, effectivement, dans sa bouche, une sortie de route de M. Lagarde, qui était un soutien de François Bayrou en 2007, notamment, et qui, effectivement, a multiplié parfois ces dernières années des conflits ou des buzz.
Mike. quand on est plus bon dans une partie où on a été bon, il est temps de savoir s'arrêter, peut-être.
Bah merci. Il est jeune, hein, vous savez. Il est jeune, pas tant que ça, certes, mais il est de, je vais vous dire, il doit avoir 55 ans à peu près.
Oui, mais
Monsieur Lagarde, il est, oui, comme vous dites.
J'en ai 56.
Il est né le 24 octobre 1967 à Châtellerault, figurez-vous, Monsieur Lagarde. Donc il a 55 ans.
Mais à un moment, il faut savoir raccrocher.
Et il faut savoir quitter la table.
Voilà.
Comme disait Charles Aznavour, il faut savoir. Mais vous vous souvenez de la dernière chanson, la dernière phrase de la chanson, il faut savoir, mais moi, je ne sais pas. Parce que la vérité, c'est que personne s'en va. C'est toujours la même chose. Personne.
On peut garder le contact.
On est viré généralement ou on est mort. Mais ces métiers-là, en politique, mais je pourrais dire dans plein d'autres domaines, généralement, on est viré ou on est mort. C'est rare que on prenne soi-même la décision. Merci en tout cas, Laurent.
Je vous en prie. Bonne journée.
Merci, Françoise. Justement, bonjour Françoise. Vous habitez dans le Val d'Oise.
Oui, bonjour Pascal. Et merci d'être avec nous.
Je vous en prie.
Bah écoutez, déjà, on ne fait pas. Monsieur Jean-Christophe Lagarde a fait parler Monsieur Pasqua qui est mort. Il devrait avoir le courage de son idée et de son opinion, puisque c'est son opinion, c'est pas celle de Monsieur Pasqua. Moi, j'ai 67 ans, Pascal, et je me demande, franchement, si on a les politiques qu'on mérite. Ils sont petits, ils s'occupent pas de la France, c'est leur petite personne, la place est sûrement très bonne quand on l'a. C'est un cadre de l'UDI, ben, tant mieux pour lui. Mais je trouve ça choquant. Et comment on peut être étonné de la violence? Je reviens au football. On est étonné, mais c'est le reflet de la société. On est en train de reprocher à un garçon, supporter ou pas, qui a balancé une bouteille d'eau. Mais il faut voir ce que nos politiques, depuis le début de cette pseudo-campagne, se balancent entre eux. Donc, moi, je trouve que c'est navrant. J'ai 67 ans, je me demande si je vais continuer d'aller voter. Et pour qui?
Jusqu'à présent, vous avez voté de quel camp, si j'ose dire,
j'ai
Françoise?
J'ai voté à gauche, j'ai voté à droite, jamais extrême droite.
Mais alors, par exemple, en 2017, vous aviez voté pour qui?
Macron.
Au deuxième tour et au premier tour?
Macron.
D'accord. Donc, finalement, c'est pour vous, Emmanuel Macron fait la synthèse de ce que vous faisiez politiquement, parce qu'un coup à droite, un coup à gauche, donc lui, c'est monsieur en même temps, donc il satisfait vos vœux.
Il n'y a plus de gauche?
Il y a des idées de gauche, en tout cas. Emmanuel Macron peut reprendre à son profit des idées de gauche, comme il reprend aussi des idées de droite. Il y a certaines mesures qui sont plutôt de gauche.
Il n'y a plus de parti socialiste, il n'y a plus de contre-pouvoir, c'est ça qui est comment?
Il y a une redisposition de l'offre politique.
Oui, tout à fait, tout à fait.
Bon, voilà, vous allez encore voter. Vous êtes content d'Emmanuel Macron?
Pas spécifiquement, non.
Pourquoi?
Ben, je pense que au début il a eu un comment et je pense que c'est ce qu'on continue de lui reprocher maintenant. Il a été un petit peu pédant, il n'écoutait pas d'autres avis, c'était le sien. Enfin, il a un ego surdimensionné. Il avait une morgue un peu, il était dédaigneux et j'étais déçue dans sa première année de mandature. Parce qu'il nous considérait, je trouve qu'il nous dénigrait. Et donc, c'est pas ça dont on a besoin. On veut quelqu'un qui nous représente. Mais est-ce qu'aujourd'hui, il y a un homme politique qui va enfin nous représenter?
Mais est-ce qu'il y a des mesures, par exemple, qui vous ont déçu, qu'il a prises ou au contraire qu'il n'a pas prises?
Écoutez, c'est au niveau des jeunes quand même. Je pense que là, il y a un sacré problème. Au niveau de l'éducation, au niveau de l'école. Oui, je suis déçue sur ce côté-là.
Ben merci vraiment Françoise, voilà. Et c'est toujours intéressant d'écouter les auditeurs, je le dis à chaque fois, mais moi je prends beaucoup, beaucoup de plaisir à écouter ce que disent les uns et les autres, parce que ce qui est intéressant, c'est que s'ils le disent, c'est qu'ils le pensent, qu'ils aient raison ou pas, c'est pas le problème. Ce qui est intéressant, c'est ce qu'ils disent, cette dame, est-ce qu'elle a raison, est-ce qu'elle a tort, chacun pense ce qu'il veut, mais si elle le dit, elle a raison pour elle. À tout de suite.
Pascal Pro, les auditeurs ont la parole sur RTL. Les auditeurs ont la parole sur RTL.
Avec Pascal Pro.
Bon, on devait célébrer les mamies, mais on est en retard, Laurent. C'était le jour des mamies aujourd'hui?
C'était l'élection hier de Super Mamie France. Mais on peut en parler demain.
On en parlera demain avec Marie-Christine. Marie-Christine, on vous dit demain? Rendez-vous demain, Marie-Christine?
Pas de problème, d'accord, je serai là.
À demain, Marie-Christine. Le débrief avec notre ami Laurent.
13h, 14h30.
Les auditeurs ont la parole sur RTL. C'est l'heure du débrief de l'émission par Laurent Tessier.
Minable, assez, ce sont les unes des quotidiens Le Progrès et La Provence aujourd'hui après l'arrêt du match Lyon-Marseille hier soir au bout de 4 minutes de jeu. Alors qu'il s'apprêtait à tirer un corner, le joueur marseillais Dimitri Payet a été touché au visage par une bouteille d'eau.
Oh, les projectiles, oh, il est touché Dimitri Payet, là, il a reçu quelque chose dans la tête. Oh,
ah, il s'écroule au sol,
le
Dimitri
match
Payet, on a l'impression de revivre ce qui s'est passé à 10.
Le staff de l'OM qui demande aux joueurs de rentrer au vestiaire. Ils viennent chercher les joueurs, les membres du staff de l'OM, en disant « au vestiaire ».
Alors faut-il taper du poing sur la table ? Comment en finir avec ces violences ? Il faut arrêter les mesurettes. Pour Bruno.
Qu'il faut de l'interdiction de stade une fois, et la deuxième fois, c'est interdiction de stade à vie.
Mathieu, lui, n'est pas très surpris par ces actes qui se répètent.
Ça représente typiquement l'image de la France. Ben, c'est-à-dire qu'en fait, on a trop laissé faire pour tout. Sur un match comme hier, vous mettez déjà match gagné sur l'OM, et vous enlevez 3 points à Lyon. Ça va faire très mal. Vous mettez du huis clos, beaucoup de huis clos, parce que là, c'est l'argent qui rentre dans les recettes de Lyon, et là, peut-être qu'à un moment donné, les dirigeants de Lyon, comme on l'a ça, ils vont peut-être commencer à s'exciter et dire, bon, à un moment donné, on va s'occuper des supporters, parce qu'on perd de l'argent, on perd des points, il y a beaucoup trop de pertes.
Si la Ligue de football professionnelle nous écoute, hein, vos propositions au standard aujourd'hui dans l'émission. Tiens Cédric, que faut-il faire encore ?
Si déjà, par là, on avait un barème de sanctions en fonction des faits, je vous garantis que ça calmerait certains excités de la calotte. Je vous le dis tout de suite. Parce que là, il n'y a rien. Il n'y a pas de barème, il n'y a pas de sanctions. Les sanctions, on a l'impression que c'est un peu à la tête du client, un peu les petits arrangements entre amis en fonction du club que c'est, Paris, Marseille, Lyon, on verra. Et ça, pour moi, c'est une stupidité absolue.
Cédric, président.
Et puis, mesdames, messieurs, souvenez-vous, vendredi dernier, un amour était en train de naître entre notre auditrice Charlotte et Monsieur Boubouk.
Bon, vous ne passerez pas dans le grand magasin où Charlotte est à Nice.
Bah, pourquoi pas bah,
oui, parce que vous êtes à Paris, cher ami.
Vous êtes bienvenue, Olivier.
Ah, merci. Ah, faites attention, Charlotte, vous ne connaissez pas Olivier.
Il est capable de le faire. Hein.
Ah, il est capable de prendre le chemin de fer.
J'arrive.
Oui, Monsieur Boubouk était déjà sur le site de la SNCF pour réserver ses billets. Et même Laurent au 3210 est passionné par cette histoire, ce potin.
Je me suis excité comme une puce tout seul.
Je vous en prie Laurent. Alors Monsieur Boubouk, a-t-il été retrouver Charlotte à Nice ?
Je vais être très honnête, je n'ai pas osé.
Enfin, ah
je,
oui,
je suis
ça.
Timide et je me suis dit que prendre le train pour rejoindre Charlotte, notre auditrice, non,
oui,
je suis trop timide, Pascal, c'est comme ça.
Oh non, ce n'est pas possible. Bon, pour m'en remettre, une petite chanson, Pascal.
Fais du feu dans ma cheminée, je reviens chez nous.
On va essayer de le retrouver, Pascal.
Mais c'est toujours assez moderne ce que je chante, hein. Je ne sais pas si vous avez remarqué.
Non, je ne comprends pas pourquoi vous dites ça.
C'est une chanson. Mes références sont un peu datées.
Allez, le débrief pour aujourd'hui, c'est terminé. Quittons-nous alors avec la chanson du jour.
Mais la version que vous avez trouvée, elle est superbe. Hein.
Alors, on ne va pas la faire.
Elle est moderne.
Ah oui.
Mais c'est bien, parce que nos auditeurs, ils connaissent cette chanson.
Oui, exactement.
Ils reconnaissent la voix sublime. Voilà, la voix sublime de Fred Mella. Et puis derrière, il y avait les chœurs avec Geoffrachon qui comptait les spectateurs dans la salle. C'était le plus grand.
Ah, c'est
Geoffrachon.
C'est le live chez Michou, ça.
Je vous en prie. Bon, on devrait faire un spécial compagnon de la chanson.
Oh, ouais.
Jean-Alphonse, moi ça me fait penser à Noël, les compagnons.
Aujourd'hui, l'heure du crime, une enquête aux marges de la médecine et de la justice. Le syndrome de Munchausen par procuration. Est-ce qu'on peut empoisonner son enfant pour ensuite lui faire croire qu'on le guérit ? Ben, ça fait partie des sévices et c'est puni par la justice. A tout de suite.
A tout de suite, ami.